Before, dear friends, I turn to the Word of God, if I may just say a word or two.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans Éphésiens chapitre 6, verset 19, où l'apôtre Paul dit, il a parlé de la prière, priant en tout temps, et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler librement, avec hardiesse, pour faire connaître le mystère de l'Évangile. Éphésiens 6, verset 19. Et nous en arrivons à la fin de cette lettre aux Éphésiens. Et c'est une occasion pour nous de considérer la perception du ministère par un apôtre. Et ce verset est si riche et montre la perception du ministère par l'apôtre Paul dans le contexte de cette exhortation à prier et pour moi aussi au verset 19. Afin qu'il me soit donné de parler librement, avec hardiesse. Ces paroles sont très importantes. Elles ne signifient pas simplement que j'ai l'occasion de parler, mais que la substance même de ce que je dois dire et la manière de parler et le contenu de mon message me soit donné. L'apôtre Paul est prisonnier à présent. Il a déjà eu l'occasion de parler à des gouverneurs, et plus tard également, il parle également aux chefs des Juifs qui sont contre lui et qui ont des préjugés contre lui. Comment est-ce que je dois leur parler? Et ensuite il va parler également à des soldats romains qui le gardent, qui sont autour de lui, et les gens qui le visitent. Et il recherche l'aide du Seigneur, et ceci est en accord avec la promesse de Christ. Et j'aimerais commencer avec ceci. Voyez sa dépendance de la prière, c'est là notre premier point. Paul dépend de la prière, et pour moi aussi. Paul ne peut pas réussir sans la prière des enfants de Dieu. Nous nous disons, n'est-il pas un apôtre? N'a-t-il pas une onction toute particulière d'en haut? Oui, mais dans le mystère de la volonté de Dieu, il ne peut pas réussir dans son ministère sans la prière des enfants de Dieu. Et il est en souci pour cela, et il appelle souvent les gens à prier pour lui, pour cette raison-là. Parce que les gens vont penser que Dieu va le soutenir, mais la volonté de Dieu, c'est de le soutenir alors que les gens prient pour lui. De même pour tous les prédicateurs, de même pour tous les chrétiens qui témoignent pour Christ et les enseignants à l'école du dimanche. À moins que nos efforts ne soient accompagnés de prières, à moins que nous ne prions l'un pour l'autre, que nous soutenons tous ceux qui témoignent, tous ceux qui prêchent, tous ceux qui enseignent, nous ne pouvons rien accomplir. Nous prions Dieu et remercions Dieu pour chaque enseignant dans l'école du dimanche et pour tous ceux qui ont ce ministère d'intercession pour soutenir un prédicateur et un enseignant dans l'école du dimanche. Et ceci est essentiel, nous oublions si souvent ces choses. Mais Dieu va les bénir, sans aucun doute, s'ils enseignent sa parole, oui, mais pas sans la prière de l'Église, des enfants de Dieu. L'apôtre Paul plaide comme celui qui dépend entièrement de la prière des chrétiens. Vous pensez, « Oh, mais moi, je n'ai pas le temps, je suis affairé d'autres bons priers. » Non, nous devons tous prier pour la prédication de la parole. Parfois, le Seigneur ne répond pas à nos propres prières. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que nous prions pour des choses pour nous-mêmes? Nous n'avons pas de temps pour prier pour la parole, pour les pasteurs, pour les enseignants, pour les chrétiens qui témoignent, pour les messagers. Et Dieu ne répond pas à nos prières pour nous-mêmes avant que nous ne prions pour les autres, parce que c'est là ce qu'il nous demande de faire, de prier pour la parole. Ainsi, ne vous attendez pas à ce que les autres fassent ce travail. Certaines personnes adorent des héros, même si l'apôtre Paul a été méprisé par certains, d'autres l'adoraient comme un héros. « Oh, il est l'apôtre Paul. Je suis venu au Seigneur par lui. Il a fondé des églises. Peut-être que j'oublie de prier pour lui. Mais lui, il va réussir parce qu'il est particulier, unique. Il est si efficace dans sa parole et il travaille si dur. Oui, mais il n'aura pas de fruits si les enfants de Dieu ne prient pas. » Et nous devons réveiller nos propres cœurs et prier pour les prédicateurs, pour les enseignants à l'école du dimanche, pour les chrétiens qui témoignent pour Christ. Mais Paul en particulier souligne quelque chose ici. afin qu'il me soit donné de parler librement. » Et j'aimerais lire dans l'évangile de Matthieu, l'une des promesses du Seigneur, au chapitre 10, verset 19. Quand il y aura la persécution, la difficulté, dit le Seigneur. Mais quand on vous livrera à eux, ne soyez point en peine, ni de ce que vous direz, ni comment vous parlerez, car ce que vous aurez à dire vous sera inspiré à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et ceci, c'est même au milieu de la persécution. Cette grande promesse de Christ, c'est que ses enfants, les disciples, les apôtres et ceux qui leur succèdent seront en particulier soutenus par rapport à ce qu'ils vont dire et comment parler, même dans des temps de grande persécution et d'opposition. J'aimerais expliquer comment ceci fonctionne. Bien sûr, ceci signifie ce qui est écrit, que quand nous sommes dans la difficulté, si nous sommes arrêtés, si nous sommes liés ou amenés devant les juges, les tribunaux, accusés de toutes sortes de choses, Dieu va nous aider et il nous soutiendra par sa puissance. Mais ce n'est pas le seul accomplissement de cette promesse. Cette promesse, savez-vous, a été accomplie déjà dans une grande mesure, dans les Actes des apôtres, où l'Église, la période de l'Église commence. L'apôtre Pierre se tient dans Actes, chapitre 2, au jour de la Pentecôte. Il n'a jamais prêché auparavant. Il est un pêcheur de poissons et il ne sait pas comment prêcher. Oui, c'est sûr, il était sous l'instruction, la formation de Christ et il l'a suivi pendant près de 3 ans. Mais il n'a jamais prêché auparavant. Il est là, dans l'enceinte du temple. Il y a des milliers de personnes qui l'écoutent. Il y a tous ces scribes, ces pharisiens éduqués. Et c'est lui qui doit parler à ces juifs sophistiqués qui sont tellement opposés à lui, il donne la première prédication de l'Église chrétienne. Où sont ses notes? Il n'a pas de notes. Il n'a pas eu le temps de préparer. Est-ce qu'il avait du temps pour pouvoir rassembler ses pensées? Non. Et il donne la plus merveilleuse prédication, la première de sa vie. Dieu l'a soutenu. C'est l'accomplissement de cette promesse. Voyez-vous, c'est un accomplissement de la promesse pour nous. Parce que dans cette prédication, dans Actes 2, par l'apôtre Pierre, c'est une prédication parfaite. C'est là ce que vous devez prêcher. Il parlait dans le contexte des Juifs, en prouvant que Jésus est le Christ, le Messie. Et il est retourné aux Écritures de l'Ancien Testament qui prouvaient la résurrection. Mais c'était merveilleux, une prédication merveilleuse pour les toucher intellectuellement, mais également leur cœur, en les appelant à la repentance et le fait qu'ils aient crucifié le Messie. Quelle prédication! Tout est là! C'est une prédication parfaite. Mais voyez-vous, c'est une instruction pour nous. Dit le Seigneur, avant que tout ceci ne se passe, je vais vous montrer ce que vous devez dire. Oui, au moment même, il le fera. Mais déjà, il a révélé ceci dans l'Écriture. Comment nous devons prêcher? J'ai parlé il y a pas longtemps à un jeune homme dans un institut biblique et il me disait qu'il avait une formation sur la prédication. Et je lui ai demandé, est-ce que vous avez une étude particulière sur Actes 2 et Actes 17, l'apôtre Paul qui parle sur la colline de Mars? Et il m'a regardé, bouche bée, il m'a dit non. Et je me suis dit, oh, mais alors que savez-vous par rapport à la prédication? Et à la façon de prêcher, qu'est-ce que c'était comme institut biblique? Le Seigneur accomplit 50% de sa promesse là et il nous montre exactement ce que nous devons dire dans Actes 2, dans Actes 17. Et nous n'étudions pas ces choses quand nous voulons prêcher. Quelle tragédie! Oh, c'est une parenthèse, mais voyez-vous, la promesse est déjà accomplie dans la parole de Dieu. Comment prêcher? Quoi dire? C'est là la perception de Paul du ministère, et tout est là, dans la parole. Afin qu'il me soit donné de parler librement, avec hardiesse. Ce terme traduit par hardiesse, avec assurance, c'est un terme grec qui veut dire avec assurance. Je ne critique pas la traduction. Avec hardiesse. Non seulement sans crainte d'intimidation, mais également clairement, prêcher clairement. La prédication de l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, combien ceci était clair, compréhensible. Ce n'est pas plein de jargon religieux, ce n'est pas incompréhensible, mais ceci donne les arguments pour plaider avec les gens. C'est comme si Pierre disait « Regardez ceci, Christ doit être votre Messie, pour cette raison, pour cette autre raison. Regardez les Écritures de l'Ancien Testament, il plaide. Ce n'est pas simplement qu'il crie, qu'il leur commande des choses, qu'il parle fort. Non, il plaide. Il ne les sous-estime pas, mais il les respecte. Et il plaide sur cette base-là. Ce n'est pas une prédication hostile, qui parle fort. Sans aucun doute, il a élevé sa voix parce qu'il y avait des milliers de personnes. Certains prédicateurs de nos jours pensent qu'il faut utiliser le langage de la rue et de l'argot pour que les gens les acceptent. Non, vous ne voyez rien de ceci dans Actes chapitre 2 ou dans la prédication de Paul dans Actes 17. Il prêche avec courtoisie et clairement et avec respect et il représente l'amour de Dieu. Parfois, vous voyez un prédicateur qui parle d'une manière si hostile, avec une voix si forte. Les prédicateurs doivent représenter l'amour de Christ qui est venu, qui a souffert, qui est mort pour les pécheurs dans l'Évangile. L'apôtre Paul prie afin qu'il me soit donné de parler librement, avec hardiesse, avec assurance et clarté, pour faire connaître le mystère de l'Évangile. J'aimerais dire quelque chose par rapport au mystère de l'Évangile. Je pense que nous comprenons tous ce que cela veut dire quand l'apôtre Paul utilise ce terme, le mystère de l'Évangile. Ceci ne veut pas dire que l'Évangile est un secret, dans le sens où nous ne pouvons que comprendre l'Évangile si nous connaissons certains secrets, comme si c'était une secte mystérieuse. Non, l'Évangile est un mystère. Pour deux raisons principalement. Premièrement, l'homme n'y aurait jamais pensé, n'aurait jamais imaginé ceci. Ce n'est pas ainsi que l'être humain réfléchit, pense. Si vous demandez à quelqu'un qui n'est pas chrétien, qu'est-ce que vous pensez que vous devez faire pour être accepté par Dieu? Alors leur réponse naturelle sera « Oh, je dois vivre une bonne vie, une vie sainte. Je dois tourner la page et m'améliorer. » Et vous direz « Non, ce n'est pas juste. » La réponse est vous devez recevoir le salut comme un don gratuit parce que nous ne pouvons pas le mériter. Réellement? Voyez-vous, l'Évangile est un mystère parce que ce n'est pas ce que quiconque aurait pu imaginer. Qu'en tant qu'être humain, plein de péchés, nous ne pouvons pas avoir le salut par notre propre mérite, mais nous devons le recevoir par le don gratuit de Dieu qui a été payé par Christ qui a souffert, qui est mort, qui a donné son sang à la croix du calvaire. Ainsi, nous devons expliquer ces choses clairement aux gens parce que ce n'est pas ce que l'être humain peut imaginer. Dans son orgueil, dans sa fierté, l'être humain pense qu'il peut mériter la faveur de Dieu. Ainsi, c'est un mystère. Dans ce sens-là, nous devons expliquer ces choses à l'être humain qui a chuté loin de Dieu. Et c'est un mystère dans un autre sens également. C'est un mystère parce que la manière par laquelle le salut allait être donné, le pardon allait être payé, a été plutôt voilé jusqu'au moment où Christ est venu. Dans l'Ancien Testament, ils ont été enseignés. Ils savaient qu'il devait y avoir un sacrifice, mais ils ne savaient pas exactement comment. Dans l'Ancien Testament, parfois Dieu leur montre presque ceci, cette prophétie dans Ésaïe chapitre 53, bien connue, un sauveur qui souffre. Et cependant, ils n'ont toujours pas encore compris comment ceci a été voilé, la manière par laquelle ceci sera fait jusqu'au jour où Christ allait venir, pour que toute la gloire et l'honneur soient en Christ. Ceci était enseigné dans l'Ancien Testament, que le salut sera par la foi. En se confiant en Dieu qui allait pourvoir librement, Abraham a cru en Dieu et ceci lui a été imputé pour sa justice. Paul nous dit que Moïse a enseigné l'Évangile par la foi, mais ce n'était pas jusqu'au moment du Nouveau Testament où là nous avons vu la clé. La clé, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, le Fils éternel de Dieu qui sera personnellement incarné dans le monde. et qui deviendra homme, le Dieu homme, en vivant une vie parfaite. Et il allait souffrir, mourir à la croix du calvaire pour prendre la condamnation éternelle de notre péché. Si nous croyons en lui et en offrant sa perfection pour ses enfants, c'est ainsi que Dieu le fera. Il est le grand sacrifice et le mystère est dévoilé. Voilé jusqu'à ce moment-là, la manière exacte par laquelle ceci sera fait, mais à présent dévoilé. Il y a un autre aspect de ce mystère, non seulement l'incarnation, non seulement la mort expiatoire, la résurrection de Christ, que l'homme ressuscitera également en Christ. Mais il y a un autre aspect qui est très précieux. Dans l'Ancien Testament, la prophétie a été donnée qu'un jour, les non-juifs seront bénis. Mais uniquement dans le Nouveau Testament est-il dévoilé l'étendue dans laquelle les non-juifs sont bénis. Dans l'Église, les non-juifs sont un avec les juifs. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et les non-juifs peuvent être sauvés. Les non-juifs élus peuvent venir à Christ et être les enfants de Dieu, tout autant que les juifs sauvés. Ceci était un grand mystère. Tous les saints de l'Ancien Testament ne pouvaient pas comprendre que ce serait aussi merveilleux que ceci. Ce sont là les choses que l'apôtre Paul mentionne fréquemment. Et dans Colossiens chapitre 1, nous l'avons lu dans notre lecture de la parole de Dieu, au verset 25 à 28, l'apôtre Paul dit « Dont j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, pour annoncer pleinement la parole de Dieu. » Écoutez ces paroles. « Le mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les non-juifs. » Les non-juifs font partie de l'Église. Romains 16, 25 dit la même chose, ou dans Éphésiens chapitre 3, dans ce livre que nous étudions, verset 3, c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, comme je viens de l'écrire en peu de mots, au verset 5, mystère qui n'a pas été manifesté aux enfants des hommes dans les générations passées, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et aux prophètes, prophètes du Nouveau Testament également, savoir que les non-juifs sont co-héritiers et qu'ils font un même corps et qu'ils participent à sa promesse en Christ par l'Évangile. C'est là le mystère. Et Paul a le privilège de l'annoncer. Pour revenir à Éphésiens chapitre 6, verset 19, « Et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler librement, avec hardiesse, pour faire connaître le mystère de l'Évangile. » Oh, j'ai dit ceci il y a quelques semaines, tout prédicateur doit être un prédicateur de l'Évangile. Il doit savoir comment présenter les arguments, comment plaider avec les gens qui l'écoutent, comment amener les bons arguments. Et en passant, je dois dire que je ne parle pas en termes d'accomplissement. Je ne suggère pas que moi, j'accomplis ces choses et que j'y arrive. Ces choses que Paul nous donne comme exemple, ce sont là les aspirations du prédicateur, son but, son objectif. Mais c'est là notre but. Nous ne nous mettons pas en avant. Amener les bons arguments, raisonner et implorer les pécheurs de venir à Christ. Chaque prédicateur doit prêcher l'Évangile. Certaines personnes sont spécialisées en apologétique, en prouvant que Dieu existe, en prouvant que les Écritures sont la vérité. Oui, nous devons faire ceci également. Mais certaines personnes vont trop loin. Ils pensent que c'est ainsi qu'ils vont amener les pécheurs à Christ, de prouver l'existence de Dieu, de prouver la véracité de l'Écriture, de prouver que la foi chrétienne est un ensemble de doctrines qui ont tout leur sens. Et ceci aide beaucoup de gens, mais ceci ne sauve pas. C'est simplement une étape, c'est simplement une petite partie de l'œuvre. Ceux qui se spécialisent ainsi sont dans l'erreur, et dans les années 50-60, il y avait un grand prédicateur qui allait dans toutes les universités de l'Occident Et les étudiants aimaient l'écouter et ils parlaient puissamment. Ils raisonnaient avec tant d'arguments, de manière à ce qu'ils acceptaient tous ces doctrines. Mais ils n'ont pas été sauvés réellement dans leur cœur. Et son fruit a disparu quand il est décédé. Parce que les gens étaient simplement convaincus intellectuellement. Et ils avaient cette crainte de Dieu. Mais ceci ne les a pas amenés au salut. Il n'y avait pas la conviction de péché. Et ils ne mettaient pas en avant Christ, sa mort expiatoire, son œuvre. Et l'Esprit n'a pas œuvré pour sauver les âmes. Et c'est là la chose essentielle. Et quand vous voyez ces prédications que j'ai mentionnées, ces prédications dans le Nouveau Testament, exalte Christ, nous devons prêcher l'Évangile, prêcher Christ. Nous devons également enseigner la parole. Nous devons prêcher la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Si vous lisez toutes les épîtres de Paul, il cite tant les Écritures, tant de versets de l'Ancien Testament ou d'allusions à l'Ancien Testament. Enseignant de la parole, le prédicateur doit enseigner la Bible. Pensez aux puritains qui enseignaient la parole d'une manière merveilleuse. Et parfois, ils passaient beaucoup de temps sur certains livres. Pour certains prédicateurs, ils passaient 5 ans ou 10 ans sur un seul livre, ou dans le cas de quelqu'un, 20 ans sur un seul livre de la Bible. Peut-être que ceci est un peu trop long, mais chaque fois qu'ils voyaient un texte qui leur rappelait une doctrine, alors ils parlaient de cette doctrine. Ainsi, ils recouvraient toutes les doctrines, alors qu'ils parlaient d'un seul livre de la parole. Si vous lisez les commentaires en 4 volumes sur Hébreux de John Owen, ou l'édition en 7 volumes, comment est-ce qu'il peut dire tant par rapport à la lettre aux Hébreux? Constamment, il élabore sur chaque doctrine. Et ensuite, il en revient à Hébreux. C'était là la méthode des puritains. Ainsi, c'est doctrinal, mais c'est également appliqué. Les puritains exhortaient profondément. Ils avaient un grand souci. Les puritains avaient un grand souci. Je vous dis ce que c'était. C'est que tout le monde allait à l'église. Comment est-ce que ceci peut être un souci pour eux? C'était la loi. Tout le monde devait aller à l'église. Ainsi, tout le monde y allait. Et alors que la loi ne l'imposait plus, c'était une convention sociale. Et vous n'étiez pas employé dans une ferme, par exemple, à moins que vous n'alliez dans l'église locale, dans la paroisse locale. Et pendant des années, tout le monde allait à l'église. Et le problème, c'est que les êtres humains, dans leur orgueil, si tout le monde va à l'église, si tout le monde apprend les doctrines, tout le monde pense qu'ils sont chrétiens. Et les prédicateurs puritains se demandaient, mais que pouvons-nous faire? Ils pensent tous qu'ils sont chrétiens. Et beaucoup d'entre eux ne le sont pas. La plupart d'entre eux ne le sont pas. Et ils viennent à l'église le dimanche et ils oublient tout ceci le reste de la semaine. Comment est-ce que je peux leur expliquer qu'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils ont besoin de Christ? Certains puritains essaient d'expliquer profondément que les gens ne sont pas convertis. Ainsi, de nos jours, parfois quand nous lisons les puritains, nous nous disons « Oh, j'ai l'impression qu'ils essayent de me convaincre que je ne suis pas chrétien. » Et pendant le grand réveil de 1739 et après, tant de gens allaient à l'église. Et vous savez quel était leur grand thème des prédicateurs? C'était la nouvelle naissance. Vous pouvez peut-être aller à l'église et penser que vous êtes chrétien et connaître les doctrines, mais vous n'avez jamais été né de nouveau. La nouvelle naissance. De nos jours, c'est différent. Les gens ne viennent pas à l'église. Les gens ne comprennent rien et ne croient en rien. Mais les puritains avaient leurs problèmes spécifiques. Mais ils enseignaient la parole. Dans ce pays, la tradition d'enseigner la parole s'est perdue. Quand vous lisez les anciens livres, Spurgeon, quand vous lisez Mayer qui donne ses commentaires sur les livres de l'Ancien Testament, il applique ces choses pour notre vie. Et puis en 1910 et après la Première Guerre mondiale, et après cette période, les prédications sont plutôt morales et n'enseignent plus la parole et les doctrines. Dans les années 50-60, Dr. Martin Lloyd-Jones, à la chapelle de Westminster, qui est dans un état assez triste aujourd'hui, mais dans ce temps-là, ce pasteur essayait de tous ses efforts de prêcher la parole profondément dans chaque livre de la parole. et il incluait beaucoup de doctrines alors qu'il parlait de chaque livre de la parole. Vous devez prêcher l'évangile et vous devez également enseigner la parole. Et il y a un grand fruit en cela. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui me disait qu'il était dans l'église alors que nous avons considéré le livre de l'Apocalypse pendant nos études bibliques du mercredi soir. Et ceci a changé entièrement sa vie chrétienne, sa manière d'étudier la parole de Dieu. Il était étudiant ici à Londres, puis il est parti ailleurs. Et ceci a tout changé dans sa vie en entendant la prédication de ce livre. Quelqu'un d'autre a écrit en disant qu'il était là quand nous avons étudié le livre de Job. Une autre personne, le Cantique des Cantiques. Voyez-vous, ce n'est pas le prédicateur, mais c'est la parole. D'étudier ce livre a changé toute ma vie, la manière par laquelle je lis la Bible et je l'étudie. Et là, nous apprenons de l'apôtre Paul. Je ne parle pas de ce que moi je fais ou de ce que le prédicateur peut accomplir, mais notre objectif, notre but. Et pour moi aussi, afin qu'il me soit donné de parler librement avec hardiesse pour faire connaître le mystère de l'Évangile. Et l'apôtre Paul a reçu ceci. Et nous apprenons de l'apôtre Paul. Prêcher l'Évangile, prêcher la parole, l'exhortation. Le prédicateur doit exhorter. Oh, je devrais être plus rapide, chers amis, sur ceci. L'exhortation est essentielle. Sans appliquer la parole de Dieu pour nous, sans que les péchés soient nommés, sans que les vertus soient expliquées pour que nous puissions comprendre, nous n'avancerons pas. Et l'exhortation purifie l'Église également. Malheureusement, parfois, des gens nous quittent. Parfois, ils nous quittent parce que leur vie chrétienne est secouée et ils perdent leur chemin. Et nous prions pour eux et ils reviennent ou dans une autre Église. Et parfois, tristement, il y a des gens qui nous quittent et qui disparaissent. Ceci ne se passe pas très souvent, mais c'est un processus continuel, donc parfois ceci se passe. Mais savez-vous, parfois c'est nécessaire, c'est une bonne chose. Si quelqu'un vient, qu'il semble faire partie de l'Église, accepter la parole, les choses de Dieu, mais alors que le temps passe, ils sont irrités par ceci ou par cela. Par l'exhortation de servir le Seigneur, par exemple. Par l'exhortation de vivre une vie modeste, sans convoitise, sans excès. Je donne simplement des exemples. Ces choses les irritent. Et ils se disent, ceci n'est pas pour moi. Ce n'est pas ma place ici. Mais imaginez qu'ils n'entendent jamais ces exhortations. Imaginez qu'ils s'installent là pour toujours, avec nous. Alors je vous dis quelque chose. Petit à petit, l'Église serait corrompue et perdrait son zèle et son amour pour la vérité, parce qu'il y aurait de plus en plus de gens qui aiment être dans une Église chrétienne et qui aiment l'idée d'aller au ciel et d'avoir la communion fraternelle et qui sont d'accord avec la foi chrétienne, mais ils n'aiment pas la rigueur de la vie chrétienne, de la prière. Et ils n'aiment pas être repris par les autres, ils n'aiment pas le service pour le Seigneur, vivre une vie pour Dieu en premier dans leur vie. Et s'ils ne partent pas, alors petit à petit, ils prennent le dessus, comme des églises à Londres qui, il y a bien des années, grandissaient, maintenant, elles ferment. Parce que la paille, le chaume ont pris le dessus. Mais si la parole avait été prêchée avec exhortation, alors ces gens serait partie de l'Église. Ainsi, même ceci est une bénédiction pour l'Église. C'était Moody, l'évangéliste américain au XIXe siècle. Quelqu'un lui a demandé « Est-ce que vous avez eu beaucoup d'ajouts bénis dans votre Église ? De personnes qui sont une bénédiction, qui se sont rajoutées à votre Église ?» Il a répondu « Non, mais nous avons eu beaucoup de bénédictions par certains qui sont partis. » Nous devons prêcher l'Évangile, prêcher la parole. Et également reprendre, encourager, avertir. C'est là ce que l'apôtre Paul a à l'esprit. Afin qu'il me soit donné de parler librement. Mon temps est passé. Je voulais dire quelque chose, peut-être une autre fois, pour parler de l'une des contradictions la plus merveilleuse de cette épître au verset 20. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. quel terme que celui-ci ! Un ambassadeur, un représentant tout particulier qui a l'immunité diplomatique, qui est honoré, respecté comme un roi dans les chaînes. Parce que c'est là ce que vous et moi, nous sommes. Là où Dieu nous a placés, nous sommes ambassadeurs. Nous avons dans nos bouches la parole de la vérité. Nous représentons le roi des rois. Mais nous sommes ambassadeurs dans les chaînes. Non pas comme l'apôtre Paul qui a réellement souffert, mais nous avons tous des chaînes dans une certaine mesure. Quelle était la réponse de l'apôtre Paul ? De parler malgré tout ceci. Et le Seigneur l'a béni. Et nous allons nous en arrêter là ce matin, chers amis. Mais je voulais conclure avec quelques observations sur l'apôtre Paul et sa perception du ministère.